Il est 8h.
Non, 7h.
Il est 7h d'ailleurs. Et à 7h, voici le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
L'acte 11 des Gilets jaunes, marqué par une mobilisation en recul, émaillée de nouveaux incidents. À Paris, un leader du mouvement a été blessé à l'œil. La police saisit l'IGPN.
Et puis lassés des violences des Gilets jaunes, les foulards rouges veulent faire entendre leur voix pour défendre la démocratie et les institutions. Un rendez-vous inédit cet après-midi à Paris pour une marche républicaine. Dans l'actualité, encore le début aujourd'hui d'une visite de 3 jours Emmanuel Macron en Égypte et puis encore des hommages à Michel Legrand, décédé hier à l'âge de 86 ans.
Un mot sur l'invité de 8h20. À partir de 8h20, Jean-Pierre Filliu, l'historien spécialiste du Moyen-Orient, à 4 mois des élections législatives en Israël. Son dernier livre, Main basse sur Israël, est un portrait à charge contre le Premier ministre Netanyahou. Le livre paraît aux éditions de La Découverte.
France Inter. De nouveaux incidents hier lors des manifestations de Gilets jaunes. Ils étaient en forte baisse par rapport au samedi précédent. 69 000 hier contre 84 000 il y a 8 jours. Encore beaucoup de casseurs à Marseille, Montpellier, Avignon. À Paris, une figure connue du mouvement a été blessée à l'œil alors qu'il filmait un regroupement de divers cortèges place de la Bastille. C'est le reportage de Yann Gallic.
Ils étaient des centaines réunis sur la place de la République avec la ferme intention de participer à leur première nuit jaune. Un rassemblement nocturne et citoyen très vite avorté puisque les forces de l'ordre ont dispersé les gilets jaunes à grands coups de gaz lacrymogène et de canons à eau.
Là on faisait rien de mal, on était ici tranquille et, parce qu'il y avait un petit feu de poubelle, je dis pas le contraire. Mais ça permettait pas d'avoir tout ce qu'il y a eu là.
Comme beaucoup de manifestants, Hélène et Evelyne dénoncent cette violence policière, toutes les deux choquées par le dernier incident qui a touché l'une des figures des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, très actif sur les réseaux sociaux. Il a été sérieusement blessé au visage après un tir de grenade de désencerclement sur la place de la Bastille.
On vise pas les gens à bout portant, en pleine tête comme ça quand même. Je trouve ça inadmissible, surtout qu'ils ont eu l'ordre, qu'ils ont reçu des lettres à tous les commissariats qu'ils n'ont pas le droit de viser la tête. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient à viser la tête là? C'est eux qui attisent la haine.
Vous vous sentez remonté contre la police?
Oui, une haine contre la police que je n'avais pas avant. Moi qui la respectais, oui. Ils n'ont pas à nous tirer dessus comme des lapins, avec des flashballs, nous blesser, presque nous tuer. C'est pas normal.
La préfecture de police a immédiatement saisi l'IGPN, la police des polices, qui devra faire la lumière sur ce nouvel incident.
Reportage de Yann Gallic. Après les gilets jaunes, et bien voici les foulards rouges.
En train ou en covoiturage, ils se donnent rendez-vous à 14h à Paris, place de la Nation, pour rallier la place de la Bastille, lassée par les gilets jaunes. Ils veulent défendre la démocratie et les institutions face aux violences. C'est un pari inédit dans les rues de Paris et le nombre de participants est évidemment l'une des grandes inconnues. Ce mouvement est en opposition aux Gilets jaunes. Il se présente lui aussi comme apolitique, citoyen, né sur les réseaux sociaux. L'une des leaders de ce mouvement est une Haute-Savoyarde, Corinne Chabert. Elle a 50 ans. Elle est à la tête d'un atelier de peinture à Annecy, administratrice du groupe Facebook Rhône-Alpes et numéro 2 au niveau national. Corinne Chabert.
Souvent, dans les médias, on entend parler les gens de la France silencieuse. Ben, je pense qu'on les représente. Ceux qui, depuis 2 mois, se taisent, regardent le mouvement d'un œil externe en se disant où est-ce qu'ils veulent en venir. Au début, on comprenait. Aujourd'hui, on comprend plus. Donc, toute cette France-là qui a envie de retourner travailler, qui a envie de voir son pays se relever par l'économie, qui a envie de retrouver ses libertés aussi, hein, liberté de circuler, liberté de parler aussi, parce qu'on est quand même injurié toute la journée, on reçoit des menaces. Pourquoi on aurait peur? On est en démocratie, on est en France, quoi, on n'est pas en dictature. Tout le monde a le droit de s'exprimer, il va falloir à un moment donné que les Gilets jaunes le comprennent. Ils auront des opposants, ils s'engagent en politique, ils auront forcément des opposants.
Du jaune, du rouge et du vert pour compléter l'arc-en-ciel dominical. Nouvelle journée de mobilisation prévue pour la défense du climat. L'appel d'associations comme le WWF ou Greenpeace, mais aussi de collectifs citoyens. Une centaine d'événements dont certains d'ailleurs ont déjà eu lieu hier à Paris. Le rendez-vous est donné à 14h place de la République.
Et on en parlera avec votre invité Patricia Martin à partir de 7h50. Aujourd'hui, c'est une visite délicate d'Emmanuel Macron en Égypte.
Aucun contrat ou aucun accord militaire ne sera conclu lors de cette visite de 3 jours. Les ONG attendent le président de la République au tournant sur les droits de l'homme. Ce déplacement en Égypte est destiné à renforcer la relation déjà privilégiée entre les deux pays, car la France considère ce partenariat dans la région comme stratégique, malgré le régime autoritaire en place depuis 2013. Bertrand Galichet.
La visite qu'entame aujourd'hui Emmanuel Macron vient conforter son allié égyptien, l'un des plus proches partenaires politiques de la France en Afrique du Nord. Si l'Égypte apparaît incontournable pour l'Élysée, c'est d'abord comme pôle de stabilité pour le Moyen-Orient et l'Europe, un rempart contre la poudrière libyenne et un acteur de la lutte contre les islamistes. C'est aussi le pays le plus peuplé du monde arabe, avec 100 millions d'habitants. Autant de raisons, dit-on à Paris, de faire de l'Égypte un partenaire privilégié. La France est devenue un important fournisseur de l'État égyptien, 6 milliards d'euros d'armement depuis 2015. Aucun contrat militaire ne sera pourtant signé pendant ce voyage, peut-être en raison des critiques sur une possible utilisation de matériel français dans la répression intérieure. Avant les discussions politiques, Emmanuel Macron commence aujourd'hui par une séquence culturelle en compagnie de son épouse, la visite des temples d'Abou Simbel dans l'extrême sud du pays à la frontière du Soudan, des monuments que la France a contribué à sauver il y a un demi-siècle. Le Caire, Bertrand Galichet, France Inter.
Au moins 17 personnes sont mortes ce matin dans un double attentat contre une église de l'île de Jolo, bastion de l'organisation islamiste Abu Sayyaf dans le sud des Philippines. Au Brésil, les recherches ont été suspendues cette nuit pour tenter de retrouver les 300 disparus dans la coulée de boue provoquée par la rupture d'un barrage de déchets miniers. 34 personnes ont déjà été retrouvées mortes. La famille d'Emiliano Sala, le footballeur argentin disparu lundi au-dessus de la Manche, a relancé les recherches pour tenter de le retrouver grâce aux fonds récoltés par une cagnotte en ligne après l'arrêt jeudi des opérations de secours. L'appel de fonds lancé vendredi en fin d'après-midi a permis aux proches d'Emiliano de récolter plus de 237 000 euros. Pierre Valentin, le directeur de GoFundMe France.
On voit une vraie mobilisation finalement de la grande famille du football. Alors je sais que l'expression est un peu galvaudée, mais on voit à la fois des clubs, des dirigeants, des joueurs évidemment, des fans, des clubs de supporters et puis tout le reste qui se mobilise. Et donc on imagine que chacun donne en fonction de ses moyens et on voit des dons, des petits dons de 5 euros et puis des dons beaucoup plus gros. Et c'est ça qui est assez beau parce que ça fait que la cagnotte grossit assez vite.
Les réactions à la mort de Michel Legrand ont été très nombreuses hier. Réactions internationales avec Barbara Streisand. Son film Yentel avait obtenu un Oscar pour la musique en 1984. La chanteuse écrit sur Instagram « Je chérirai les souvenirs de notre travail ensemble ». Ou encore « Repose en paix, mon ami et mon frère » a tweeté Quincy Jones, le producteur et compositeur américain. Et puis retour en France avec cet hommage de Juliette Armanet. Michel Legrand a beaucoup collaboré également avec la jeune génération. Juliette Armanet a même conçu la pochette de son album en s'inspirant des parapluies de Cherbourg. Juliette Armanet au téléphone d'Isabelle Pasquier.
C'était un jazzman. Il a inventé aussi une certaine forme de pop française qui a influencé autant la génération de mes parents que la mienne.
Qu'est-ce qui vous a laissé à vous de cette nouvelle génération de chanteurs français ?
À la fois une extravagance et une tendresse. Il y a une folie dans les mélodies de Michel Legrand. Elles ont l'air comme ça faciles, mais elles sont extrêmement sophistiquées. Donc il y a une exigence, il y a une folie, voilà, que j'aime, une folie musicale et une tendresse inouïe. Je défie quiconque d'écouter la grande mélodie des parapluies de Cherbourg sans verser une larme.
Lui, il s'appelle Bilal Hassani. C'est lui et sa chanson « Roi » qui représenteront la France au prochain concours de l'Eurovision en mai prochain. Le chanteur, auteur-compositeur est âgé de 19 ans et il a été placé en tête des votes des téléspectateurs de France de hier soir. Cocorico, Émile Bravo, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont enfin réalisé leur grand chelem. La paire française, les deux tennismen, viennent de remporter la finale de l'Open d'Australie en double face à la paire américaine Harrison Kéré. Herbert et Mahut ont déjà été sacrés à Roland-Garros l'an passé, à Wimbledon en 2016 et à l'US Open en 2015. Je le disais, mille bravo.
Eh ben bravo effectivement à Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Avec un temps menaçant aujourd'hui, Jean-Michel Golinski.
C'est vrai, une journée souvent bien arrosée, même ventée. Seuls les bords de la Méditerranée et l'est de la Corse vont conserver un temps sec, mais partout ailleurs, personne n'échappera aux averses, sous forme de giboulées, par moments du grésil, des coups de tonnerre, et de la neige à moyenne altitude sur tous les massifs en journée, et seulement à partir de 300 ou 500 mètres ce soir sur le relief du nord-est. Le vent sera partout très turbulent, il va souffler entre 70 et 90 km à l'heure en général, avec des pointes à 110 90 sur le littoral de la Seine-Maritime au Pas-de-Calais, également sur les Pyrénées, le Roussillon et du littoral varois au Cap-Corse. Côté température, elles affichent actuellement 0 degré du côté d'Aix-en-Provence, d'Orange et d'Avignon, 5 à 10 ailleurs. En journée, les valeurs stables par rapport à hier sur une large moitié ouest vont monter un peu plus haut à l'est.